Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéo Radio tous les samedis soirs de 20h à 21h30. Le thème de ce mois, c'est l'aquarium. Vous entendez la voix de l'animateur Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, et j'ai comme invité ce soir en studio Alain Niala, philosophe, consultant, qui va aborder le thème de l'aquarium, évidemment, par l'angle plus ésotérique. Et nous aurons l'occasion, au cours de cette rencontre, de voir des extraits de nos invités qu'on retrouve dans la salle du Club Créé, salle 15-11 du mois de novembre, dont Jean Deflore, de Floride, avec un document fort intéressant. Grave réflexion sur l'état de notre monde, le sens de la vie. Et peut-être aussi un petit clin d'œil sur les invités que j'ai reçus hier à Québec, à l'Université Laval, pour la dernière fois. Monsieur Alain Bouchard, sociologue des religions. Ne manquez pas le complément surprenant de Jules Surprenant qui suit notre vidéo en direct et la mise en onde en ligne par Monsieur Jean-François Poulain de la version audio. À la régie, comme à l'habitude, notre cher ami Spiral qui est avec nous. Alors là, je vais prendre quelques instants pour vous montrer qu'on va changer complètement de décor dans le générique parce que on est en plein hiver, mais comme on dit que le thème est l'aquarium, pourquoi ne pas profiter de l'Internet et aller se chercher un aquarium? Je vous propose celui-ci. Alors ici, je vais demander à Geneviève Spiral d'enlever le son de l'aquarium, parce qu'il ne faut absolument pas mettre du son qui appartient à YouTube. La semaine dernière, on s'est fait censurer des passages de notre émission, parce que figurez-vous, que l'hymne national de France, la Marseillaise, il y a un droit d'auteur là-dessus. Alors, on n'a pas pu monétiser notre vidéo en direct la semaine dernière. Les gens n'ont pas pu passer des commentaires. Alors, c'est très particulier, YouTube. Alors, c'est beau un aquarium, hein? Vous voyez un peu l'ambiance. Et on nous dit que c'est très, très thérapeutique, un aquarium. Ça nous permet effectivement de profiter d'un moment de paix, de quiétude, un petit peu un autre monde. Et on nous compare l'aquarium à l'effet thérapeutique à le feu de foyer. Un feu de foyer à l'extérieur ou dans une cheminée. On en aura une bientôt. On va se retrouver devant mon foyer ici. Alors, vous savez que l'émission est faite en direct le samedi soir de 8h à 21h30, directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal. Et on nous dit que c'est la 7e ville au Québec où il y a une qualité de vie exceptionnelle. C'était dans le journal de Montréal de samedi le 5 décembre, date à laquelle on a fait cette émission, en direct le samedi soir. Il y a des lignes ouvertes qui vont être ouvertes très bientôt. Juste question de donner le temps à mon invité, Alain Niala, de se présenter et de commencer à camper le sujet. Alors, notre sujet de l'occasion, à l'époque, à l'époque du Père Noël, j'ai sorti ma serviette de plage de Floride. Pourquoi pas? Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, c'est un mélange des deux. On est au Québec, mais je sais qu'il y a beaucoup de Québécois rendus en Floride là, pour l'hiver. Alors, eux autres, l'aquarium, ils peuvent le vivre vraiment les deux pieds dedans là, s'ils descendent dans la mer. Là.
Alors ça, c'est assez extraordinaire. Ah, oui. Quand on peut faire de la plongée sous-marine, d'un coraux, des choses comme ça, c'est un autre univers. Effectivement, l'univers sous-marin, c'est peut-être l'occasion la plus idéale qu'on puisse avoir de vivre dans un autre élément. C'est l'expérience la plus radicalement différente au niveau des éléments. On rentre dans l'élément en haut, on essaie de survivre dans les bancs hauts.
On ne tombe pas un peu à l'état de notre mère, parce qu'on était dans le monde aquatique avant d'être né. Pendant 9 mois, là, on est dans un aquarium, si on veut.
On retourne dans le liquide amniotique, d'une certaine façon. On retourne en suspension, en apesanteur.
Quasiment.
On flotte. Surtout quand on a l'occasion d'avoir l'expérience en eau assez profonde, là, on peut vraiment avoir l'impression de flotter au-dessous de... de falaise, etc., c'est absolument magique. Et c'est une expérience qui nous ramène un peu dans la mythologie intra-utérine, dans la mythologie du paradis terrestre, d'une certaine façon. La métaphore, l'allégorie de, du paradis terrestre, le mythe originel du paradis terrestre.
Là où on est nu, on n'a pas besoin d'être habillé. Quand on est dans le ventre de notre mère, c'est ça. On est nourri, on est logé, on est protégé. Ça serait ça, le paradis terrestre.
Ben, d'une certaine façon, au niveau de l'inconscient profond, c'est sûr qu'en dehors de ce qui pourrait être le sens profond d'une mythologie, disons dans le sens même historique, là, c'est sûr qu'il y a, il y a eu un paradis terrestre historique dans le sens où il y a eu un état où l'être humain était beaucoup plus proche de la nature, soit dans des jungles profondes.
Les animaux, ça baisse pas. Hein?
Oui, c'est ça. Donc, les animaux eux-mêmes ont cette espèce d'expérience assez extatique, disons, de vivre la vie en totale liberté, avec peut-être plus de danger, mais aussi beaucoup plus de d'une certaine forme de liberté.
Ouais.
Alors, c'est sûr que l'expérience donc d'être submergé dans un autre élément, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et l'aquarium est une variante assez fascinante de cette expérience-là, dans le sens où c'est un vase clos, c'est un milieu clos.
Puisque tu en parles, on va retourner la caméra vers notre aquarium artificiel, mais qui a de l'air réel. Hein? Et je recommande aux gens d'aller sur YouTube. Il y en a une foule d'aquariums à votre goût. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'est des petits poissons, puis on sent que c'est un aquarium. Mais il y a des scènes où ils sont carrément dans des coraux, là, dans l'océan. La caméra est installée là.
Oui, ça, c'est autre chose.
Là, c'est autre chose. Là, c'est ça.
Puis ça montre justement l'ambivalence. Et c'est ça qui m'a intéressé. On en a déjà un peu parlé à Québec. Parce que l'aquarium, c'est une espèce de parenthèse de l'océan. Hein? C'est une bulle prise dans le monde naturel, c'est le monde naturel transposé dans un milieu clos, artificiel, mais on le souhaite idéalement reconstituer. Pour qu'un aquarium fonctionne, il faut que celui ou celle qui l'élabore avec les plantes, les algues, les espèces de poissons qui peuvent vivre en guillemets, écologiquement en harmonie. Là.
Ouais.
Je veux dire, il faut qu'il y ait un nombre connu, prévisible, gérable de poissons qui vivent en harmonie. S'il y a des prédateurs, ça peut se faire, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y en ait assez pour manger tous les poissons de l'aquarium.
Oui, c'est ça. Hein?
Donc,
ou des bêtas. Tu sais, la réputation des bêtas, là, ils n'endurent personne d'autre.
Alors là, à ce moment-là, on parle d'aquarium unique.
Ouais.
Et ça, c'est une autre chose. Ça nous ramène à mon thème favori, celui de la vision en tunnel. Là.
Ah oui, oui.
Le poisson bêta, lui, il est seul dans son aquarium. Puis, il y a une expérience fascinante qu'on peut faire. C'est un poisson extrêmement agressif, très solitaire. Et si on le met en présence d'un autre, il va l'attaquer, l'agresser.
Ah, ouais,
et
ouais.
Éventuellement, il n'y aura rien qu'un survivant. Plus fascinant encore, si on met un miroir à l'intérieur de l'aquarium, le bêta va agresser sa propre image, qui évidemment va lui renvoyer l'image d'un poisson agressif. Alors, on revient au thème du mimétisme dont on parlait la dernière rencontre.
Quand on parlait du théâtre.
Oui, ouais, c'est ça.
Ça ouais, ouais.
Et dans le mimétisme, l'agressivité provoque toutes sortes d'escalade de l'agression. C'est-à-dire que le poisson va montrer de plus en plus d'agressivité. Il va se gonfler, il va essayer d'impressionner l'autre, il va se gonfler encore plus. Éventuellement, il peut aller jusqu'à en mourir.
Et
il va éclater.
Le plus étonnant de ça, c'est que plus le mimétisme, ça veut dire qu'il ressemble à l'autre.
Oui, c'est ça.
Alors, plus ils se ressemblent, plus ils peuvent faillir.
Exactement. Je veux dire, pendant la guerre du Golfe, les deux belligérants, que ce soit Bush ou Saddam Hussein, traitaient l'autre de grand Satan, mutuellement.
Oui, effectivement, hein, c'est vrai. Hein,
c'est l'adversaire, c'est le monstre total.
Plus il te ressemble, plus tu vois le côté sombre.
Oui,
dans
parce
l'autre.
Que c'est le tien.
C'est ce que le Christ disait tout le temps. Hein, tu vois la poutre dans. Tu vois la paille dans l'œil du voisin, mais tu ne découvres même pas la poutre
qu'il y a dans
ton propre œil.
Oui, c'est ça. C'est que dans le mimétisme de conflit, un des phénomènes, on l'avait abordé dans la série du hasard à la connaissance, probablement, ça devait même, de mémoire, ça devait être l'émission 15, parce qu'elle devait porter sur le diable.
Ah oui.
Alors, l'image même du diable, du démon, diable, hein, c'est dualité, c'est mm-hmm. divisé, c'est l'individu divisé contre lui-même, contre sa propre part d'ombre, qui, au lieu de l'assumer, il va avoir tendance à la projeter sur l'autre. Donc, dans le mimétisme, l'agressivité, on ne voit même pas, quand on l'exprime, qu'elle nous est renvoyée par l'image de l'autre, par l'agressivité de l'autre, mais on ne voit pas, disons, entre guillemets, que, à quelque part, c'est nous qui avons commencé. Je veux dire que dans le mimétisme de conflit, on a toujours l'impression que c'est l'autre qui est agressif. Parce que c'est dans l'autre qu'on voit l'agressivité qu'on projette sur lui.
Ah oui, dans le fond.
Hein? Okay. Alors, c'est dans beaucoup de conflits, les conflits mondiaux dans le moment, il y a toujours un moment où on accuse l'autre d'être la source du conflit sans voir qu'est-ce qu'on lui a fait qui le mène à être si agressif.
OK.
Hein? Mais inversement, là, je ne veux pas dire, par exemple, qu'on peut seulement inverser une fois la proposition. Elle s'inverse, en fait, justement, comme dans un conflit mimétique, en jeu de miroir, là, comme, tu sais, comme les miroirs à l'infini. Hein? Si tu mets deux miroirs l'un face de l'autre, en fait, l'objet qui est au milieu des deux va avoir l'air de se répéter à l'infini. Donc, je ne veux pas dire, par exemple, que si on ressent l'agression d'un adversaire et qu'il est agressif, on est la cause unique de son agression.
Mm-hmm.
Lui-même a dû avoir une agression que peut-être même on n'a pas vue, à laquelle on a répondu par une agression sans s'en rendre compte, qui a créé chez lui un réflexe agressif que là, tout d'un coup, on voit. On ne voit pas que la chaîne a une longue histoire, comme dans les conflits actuels au Moyen-Orient.
Ouais.
Je veux dire, peu de personnes se donnent la peine de réfléchir sur l'origine de ces conflits-là, qui remontent jusqu'au colonialisme, qui a divisé des pays de façon artificielle en mettant ensemble des ethnies ou des groupes religieux qui n'étaient pas faits pour vivre en harmonie.
Oui, bien là, évidemment, tu me vois venir.
On va trop loin, là.
Bien, peut-être pas, parce que là, on voit venir là, la vague de musulmans là, qui arrivent de Syrie, là, puis qu'on va accueillir, là, on les appelle des migrants, pas des immigrants, parce qu'immigrants, ils restent. Migrants, c'est comme les oiseaux migrateurs. Ils passent.
Les réfugiés.
Vont-ils passer? On verra. Mm. Mais c'est justement, on nous impose l'arrivée d'étrangers
à
plusieurs niveaux.
On ne nous impose pas. Il y a une partie de la population qui réclame leur venue. Maintenant, c'est sûr qu'ils s'imposent eux-mêmes, encore une fois, à cause du conflit mimétique. On est la cause partielle, mais importante, des difficultés qu'ils vivent eux-mêmes. Donc, c'est le moindre des choses que de leur offrir une certaine forme d'accueil, même si on peut admettre qu'il y a albalisé de différentes façons pour que l'assimilation se fasse bien. L'assimilation, en tout cas, l'accueil se fasse bien.
OK.
Alors, ça, c'est encore une autre question. Dans chacune de ces questions-là, parce que ce n'était pas tellement le sujet aujourd'hui, mais c'est sûr que ça nous interpelle parce que...
Ça revient à l'aquarium, là, ça fait mon affaire.
C'est ce que je veux dire. Dans chacune de ces choses, la question, c'est la question de la vision en tunnel, c'est-à-dire comment on ne voit qu'une partie du problème parce qu'on ne voit qu'une partie de la réalité. Dans l'aquarium, par exemple, c'est ça qui est intéressant dans l'allégorie de l'aquarium, voit que son aquarium. Okay. On ne voit pas que les poissons qui sont introduits dans l'aquarium viennent d'un monde naturel, soit d'un autre aquarium, soit d'un lac, à tout point comparable au nôtre. Ils semblent venir d'un autre monde.
Et tu as développé un concept extraordinaire et super intéressant pendant qu'on le voit, là, l'aquarium. Tu l'appelles l'effet...
L'effet bocal.
Bocal.
Oui, oui.
Tu sais, l'effet tunnel à l'effet bocal, ben oui.
C'est la même idée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on
Notre réalité s'arrête à la vitre.
S'arrête aux limites de notre monde. Alors, d'une certaine façon, la paroi de l'aquarium est évidemment l'élément allégorique le plus clair là, de la limite mm-hmm. de notre monde, mais aussi ça, c'est beaucoup la question des limites de nos besoins. Hein? Les poissons se contentent de flotter au niveau qui leur est propre. Hein? On voit que certains poissons se tiennent vers la surface, d'autres vont plutôt vers le fond, qu'il y en a qui circulent presque continuellement entre deux eaux.
Il y en a même quelques-uns qui ont l'air quasiment horizontaux, verticaux, c'est-à-dire.
Oui, hein? Parce que peut-être ils sont appelés par la lumière. Ouais. Ouais. Donc, il y a en tout cas une écologie des espèces, une écologie des mouvements qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, certains poissons préfèrent se nourrir de la nourriture dès qu'elle touche la surface. D'autres, pour toutes sortes de raisons, vont la manger plutôt au fond. Même peut-être des poissons coprophages là, qui aiment la nourriture plus en décomposition. Plus,
ouais, c'est ça.
Il y a chaque niveau. Hein, c'est intéressant, c'est presque des niveaux comme les strates sociales, là, mm-hmm. comme une certaine forme de classe sociale, entre guillemets.
Oh,
ouais. Et je veux dire...
Mais chacun a son rôle.
Chacun a son rôle et chacun a ses besoins. Et à la limite, c'est ça la limite de nos perceptions. C'est-à-dire que le poisson va être complètement omnibulé par le fait que son monde, à tout point de vue, c'est rien que ça. Que ça ne peut pas être autre chose. Qu'en aucune façon, ça peut être autre chose. On a développé hier un peu l'allégorie. On s'imaginait un poisson fictif. On l'a même appelé à l'eau.
Oui.
Ou Alain. Ou...
Allô, Alain.
En tout cas, trouvez-lui le nom que vous voulez, qui, pour une raison ou pour une autre, découvrirait à son grand étonnement qu'il y a un monde à l'extérieur de l'aquarium.
Ah ouais.
Peut-être qu'il a été pris pour quand l'aquarium a été nettoyé, a été transporté dans un autre aquarium, il a été mis dans un sac, peut-être qu'il a voyagé. Est-ce qu'il y a sauter à l'extérieur de l'aquarium, là, à ce moment-là, il a pu avoir une expérience absolument traumatisante, celle de se trouver dans l'air. Et l'air
pendant
est irrespirable instants. Pendant seulement quelques instants.
Hey,
parce
qu'il
va avoir l'impression de se noyer dans ce monde-là. C'est ça qui est étrange.
Il se noie dans l'air.
Il se noie dans l'air
comme
parce que c'est pas son élément.
L'eau, on se
comme
dans
nous,
l'eau.
Comme on tombe dans l'eau.
Oui.
Métaphoriquement, comme nous, disons, si on se retrouverait dans une autre dimension à laquelle on n'est pas entraîné.
Les expériences de mort imminente,
oui, c'est ça.
Les near-death experiences,
les
gens qui ont été cliniquement morts, quand ils reviennent, leur vie est changée pour toujours.
Moi, mon expérience de mort imminente, je l'ai eue en me noyant. Alors, évidemment, c'est justement, elle est venue d'une suffocation. Et c'est tellement étonnant de voir que passer un certain état, on voit...
Quel âge t'avais?
Oh, j'étais jeune, là, j'étais pas compétent pour nager, je ne sais plus si c'est 5 ans ou 4 ans. Là.
Oh my,
j'étais tombé au bout d'un quai. Alors, j'étais pas dans beaucoup d'eau, mais c'était bien assez.
T'étais en train de te noyer.
J'étais vraiment en train de me noyer, puis j'ai vu mon corps continuer de descendre pendant que moi, j'en sortais. Donc, je l'ai vu descendre sous l'eau, puis je me disais, ben, il n'y a vraiment pas de problème, hein?
C'est la première fois que tu en parles à l'émission, ça?
Je crois, oui. Oui,
c'est bon, mais c'est des expériences initiatiques, ça.
Oui, absolument, parce que j'avais vraiment le sentiment qu'on était très, très, très bien. C'est devenu traumatisant quand... au moment où on suffoque, c'est traumatisant. Je ne veux pas dire que j'ai aimé ça, me retrouver privé d'air. Ça, il y a eu un moment de panique totale.
Ouais,
mais c'est étonnant la vitesse à laquelle ça s'oblitère et s'est remplacé par un sentiment de bien-être, mais alors là, presque inimaginable. Et par contre, le retour est très, très douloureux.
Ouais.
Je me suis retrouvé sur la plage.
Il y a quelqu'un qui est allé
chercher. J'étais en train de me réanimer, c'était mon père.
Ouais.
Et je veux dire, le choc, c'est étouffé à nouveau d'une certaine façon, sortir l'eau de ses poumons, etc. Mais alors, imaginons...
Hey, welcome in the gang.
Oui, c'est sûr.
J'ai vécu une chose assez semblable, puis on s'en était pas parlé.
Oui, tu m'en avais parlé.
Ben, moi, j'en ai parlé, oui,
à ce moment-là, je t'avais peut-être pas dit,
c'est sûr. Mais
alors, ça, c'est sûr que ça fait partie des ingrédients qui peuvent justifier, déterminer une espèce de démarche spirituelle. Parce que le rapport à la mort n'est pas le même quand on... J'y ai pas été, je ne me suis pas rendu jusqu'à la mort. Je n'ai même pas vu le tunnel comme
non,
tel.
Non, ça n'a pas été...
Mais j'ai senti vraiment la libération.
Une décorporation,
c'est ça. Et puis la libération, absolument.
Ah, ouais.
Puis oui, il y a une petite forme de changement de lumière, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails.
Non, OK.
Mais là où je veux en venir, notre poisson, mm-hmm. imaginaire. Là.
Ouais, ouais.
Alors, il est plongé dans un autre monde. Il vit quelque chose comme ça.
On en a fait un volant ici.
Et ben c'est ça. Donc, justement, il est dans l'air. On dirait qu'il y a une petite combinaison.
Oui, oui, oui. C'est un montage avec tes jambes. Si tu peux te tasser, je vais aller avec la caméra le montrer d'un peu plus près. C'est beau. Je... Sure. Ah, ben oui, regardons ça, le fil de la caméra qui... Voyez-vous le plafond? C'est ça que ça a l'air. Quand vous sortez de l'aquarium, vous voyez le plafond. Ça n'a pas ressemblé du tout.
Complètement derrière le décor, oui. C'est pas comme on pensait.
Non, c'est ça. Puis derrière toi, au-dessus aussi, il y a le fameux masque, parce qu'on parlait de le double. On se fait un masque, on a un masque dans la vie tous les jours.
Oui, c'est quand on parlait du théâtre.
On parlait du théâtre, c'est ça. Il est rendu en haut dans le coin. Là. Mais pour parler du poisson, ben là, on va se contenter de le regarder de loin. Là. Mais il me fait penser un peu à comment ça s'appelle, Dune. Mm-hmm. Puis, tu te souviens du film Dune, je me souviens plus de l'auteur, là, de
créateur. Frank Herbert.
Frank Herbert, c'est ça. Non, ça, c'est le texte.
Tu veux dire le film?
Mais le film qui a été fait de Dune.
David Lynch.
Qui?
C'est David Lynch.
Bon, alors, il y a un personnage dans ça qui est très, très important, qui se trouve être un petit peu le cerveau de l'univers, tu te souviens? Il est là comme d'un cerveau avec une petite bouche pointue, une petite bouche têteuse, là. Okay. Puis, il est dans un aquarium.
Ah oui, c'est lui.
Il se promène dans un aquarium.
Oui, oui, eux autres, il vient d'une autre dimension. Lui, il voyage.
Ils maintiennent dans ça.
Le temps et l'espoir aussi.
Ouais.
Oui, oui, c'est les navigateurs.
Oui, c'est ça, oui, oui, c'est vrai, exactement. La
c'est
guilde,
des mutants, la guilde des navigateurs, c'est un mutant dans l'histoire.
Puis l'épice, puis tout ça. Mm-hmm. Mais je ne sais pas l'idée, pourquoi ils ont eu l'idée de le mettre dans un aquarium. Ça a l'air un gros cerveau, finalement, à découvert. Là. Il n'y a pas de boîte crânienne. Puis il est là. Puis il voit tout, lui. Puis il flotte comme dans
un... Parce qu'il est dans une espèce de liquide amniotique, un liquide nourriciel, j'imagine.
Oui, c'est ça.
C'est pas élaboré, mais c'est évident. Là. Un liquide, en fait, à base d'épices, pour dire le fond de l'affaire.
Oui, d'épices. Oui, ouais. Autrement dit, de drogue.
D'une substance psychotrope qui le fait voyager dans le temps. C'est ça, c'est ça toute l'histoire de Dune. Oui, oui, oui.
Exactement. Ah oui.
Alors, on peut se demander,
on peut
toujours
voir
encore
l'aquarium
une fois,
pendant que t'en parles, oui.
Notre poisson imaginaire, il peut avoir eu une expérience hors de l'eau, il peut avoir eu peut-être une expérience psychotrope, qui sait, on peut pousser l'image un peu loin,
mais
l'idée est qu'il a développé l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Lui, pour une raison ou pour une autre, quand on lui raconte que les poissons qui sont dans l'aquarium ont été créés par le grand poisson, d'une certaine façon, il n'y croit plus parce qu'il a vu la jeune fille qui se penche pour venir le nourrir.
Oui, oui, oui. Okay.
Cette espèce de singe glabre.
Qui le nourrit belle, d'ailleurs régulièrement.
Qui nourrit. Oui, elle vient d'où, elle?
Ouais.
Et comment comprendre tout ce qui la fait... vivre, je veux dire, toute l'expérience qu'elle a. Comment qu'on comprend les motivations, les agendas d'être si différents
que de poissons
qui sont dans un autre élément et qui sont à l'origine de l'harmonie qu'il y a dans l'aquarium, mais qui ont leur propre motivation là, dans notre histoire. Là. Et comment... notre poisson imaginaire, ayant eu cette expérience-là, va être amené à se poser des questions qui l'amènent même peut-être à faire ce qu'on pourrait appeler une démarche pour essayer de se transformer pour que sa vie ait un sens par rapport au monde qu'il a vu. Mais là, c'est absurde, parce que ça n'a aucun sens par rapport à l'aquarium. C'est ça la difficulté, le quiproquo, disons, là, qui divise les matérialistes et les spiritualistes, là, si on veut, dans mon histoire. Si vous me suivez dans mon allégorie, c'est que notre poisson imaginaire, il cherche une transformation qui le rendrait digne d'être utile dans une dimension qui, sans la comprendre encore, il sait lui être supérieur à celle de l'aquarium.
C'est ça. Autrement dit, l'intervention de l'être humain, disons angélique ou extraterrestre ou quelconque, une force supérieure au poisson qui agit de l'extérieur à la Terre, à notre petit univers, notre petit aquarium à nous autres mêmes. Puis là, on est au COP21 à Paris. Là. Mais là, on est en train de réaliser en tant que poisson que ce qui se passe dans notre aquarium, c'est la pollution. Et c'est les excréments des poissons qui réussiront plus à être filtrés par le filtreur qui est en train de s'encrasser de plus en plus, parce que là, on est dans les années présentement, 2015, 2020, 2030, où est-ce que le filtreur va être capable de nettoyer l'eau de l'aquarium suffisamment rapidement par rapport à l'inverse qui est la pollution que les poissons produisent de manière naturelle. Là, on ne peut pas leur reprocher de faire des excréments, ces poissons-là. Là, c'est dans leur vie de tous les jours. Sauf qu'à la quantité de poissons qui devient trop nombreux sur la planète, la pollution, puis peut-être aussi un dérèglement qui est fait par des gens qui...
On s'entend que l'allégorie des poissons est intéressante, mais qu'il s'agit d'être complètement naturel,
ouais.
Donc dont l'excrétion est naturelle, dont tandis que si on veut transposer cette image-là dans la vie humaine, faut comprendre que les sources du problème sont beaucoup moins la surpopulation, même si c'est pas négligeable comme source de problème,
ouais,
que le déséquilibre du partage des richesses. C'est-à-dire que la pollution vient pas seulement du fait qu'il y a beaucoup d'humains qui consomment,
ouais,
c'est que c'est plutôt du fait qu'ils consomment tous beaucoup plus qu'il leur est nécessaire.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est l'appât du gain, là. Donc, il s'agit d'interventions qui, d'une certaine façon, ne sont plus naturelles, qui ne font pas partie de l'écosystème de l'aquarium, mais de quelque chose de plus mystérieux, là, qui est propre à l'espèce humaine qui vit dans un aquarium très différent que celui qu'on présente ici, là. Hein? Au début, tu disais méditer sur un aquarium, contempler un aquarium, c'est thérapeutique parce qu'on voit que ça suit un rythme naturel, fluide, aqueux, assez apaisant, c'est proche de l'inconscient, c'est proche des ondes thêta, c'est proche du rêve. On a un peu l'impression qu'on est dans un monde de rêve quand on regarde le rythme dans lequel les poissons... l'âge entre les deux surfaces, disons. Mais d'un autre côté, si on portait notre attention à l'aquarium humain, on se rendrait compte qu'il est beaucoup moins harmonieux que celui-ci.
Ouais. Lui, il est beau.
Il est riche. Il est riche, l'aquarium humain. Là, je veux dire, l'espèce humaine, c'est une expérience... extraordinaire. Mais il est beaucoup, beaucoup plus polarisé.
Il y a moins d'harmonie que dans celui-là. Là.
Oui, c'est ça.
Pourtant, il y a quand même une grande variété d'espèces. Là. On voit que tout le monde s'entend, là, si on peut appeler ça comme ça. Ah, oui.
Mais dans l'espèce humaine, il y a... on a déjà parlé, la verticalité qui change un peu tout. Là. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas à l'horizontale comme le poisson puis le monde animal. Hein. Tous les animaux sont assez à l'horizontale. Hein. Leur colonne vertébrale suit les courants telluriques terrestres. Je veux dire, ils marchent à quatre pattes, ils nagent en deux
eaux. Ils ont la tête à une extrémité et la queue à l'autre extrémité.
Ouais, selon les courants telluriques terrestres. Tandis que l'être humain... pour des raisons différentes, mais comme les plantes sont à la verticale, ils tendent à monter vers la dimension céleste ou vers l'énergie solaire. Ils ont comme un appel vers la lumière.
Il n'y a que l'être humain, quasiment. Là.
Les animaux supérieurs. On voit ça chez le gorille, on voit ça chez le bonobo, on voit ça chez quelques animaux, mais je veux dire, effectivement, c'est... assez rare.
Les plantes sont sur le vertical.
Oui, mais pour d'autres raisons, mais c'est vrai. Donc,
les plantes partent de terre puis en grimpent.
Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'ils ont le même appel de la lumière, mais on parle d'une lumière plus physique. Il ne s'agit pas de la lumière de la conscience, mais il s'agit de la lumière solaire.
Okay.
Ça ne fait rien. Ils font partie du processus de transformation de la lumière en oxygène. C'est pas rien.
Il ne faut pas oublier que les plantes, c'est la source de la plupart des médicaments de la pharmacopée de l'être humain.
Absolument.
Qu'il faut chercher dans les plantes. C'est l'antidote, si on veut, au poison que l'être humain aurait. Ben, va chercher la plante qui va te sauver, qui va te soulager. Alors que les animaux sont pas là. C'est comme un entre-deux, les animaux. On mange la viande, OK. Mais on dit on devrait éviter de manger de la viande. Et si on mangeait des légumineuses, si on mangeait justement des végétaux, plus que de la viande horizontale, on serait dans la verticalité toujours.
On serait dans la verticalité.
Il y a des messages derrière tout ça. Là. Ouais.
On avait parlé, ça c'est un peu ésotérique, mais c'est dans l'arbre de vie.
C'est ça.
Il y a encore un autre...
Mais là, on n'en finirait pas.
On ne rentre pas là-dedans, on juste noter que ça se trouve sur des émissions du hasard à la connaissance. Il y en a une sur l'arbre de vie où spécifiquement, on explique comment les séphiros correspondent au niveau d'alimentation.
Je ne me souviens pas de quel numéro, là, mais...
Non, dans ce cas-ci...
C'est la série sur YouTube.
Ouais, c'est sur l'arbre de vie, oui. C'est celui qui est sur l'arbre de vie.
Ça s'appelle « Du hasard à la connaissance ». C'est une série qui est sur YouTube, dans Orandia TV. Puis vous allez dans les chaînes de vidéos. Alors, il y a la série Vidéo Orandia, il y a la série
Orandia TV, qui, elle, est animée par Aligniella.
Et toi-même, c'est ça.
Votre serviteur. Et qui s'appelle Du hasard à la connaissance.
Du hasard à la connaissance. Bon. Mm-hmm. Alors, je remets le micro pour qu'il pointe par en haut. Merci. Eh bien, là, on va passer à la ligne ouverte. Et après, on va vous faire entendre un extrait de la conférence donnée par M. Alain Bouchard, sociologue très officiel des religions et des sectes et des mouvements nouvel-âgistes, qui étudie le tout depuis les années 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu Alain Bouchard comme invité à Québec à l'Université Laval, notre dernière rencontre à l'Université Laval 2015, c'était lui, notre invité, qui ferme les 40 ans d'ésotérisme expérimental, c'est-à-dire qu'on rentre dans la 40e année en 2016. Et ça va être très particulier l'année 2016. On s'en reparle sur la fin de notre émission aujourd'hui, puis j'en parlerai beaucoup plus la semaine prochaine, puis après, parce que c'est une année extraordinaire. L'information m'a été révélée graduellement. Je fais tout ça, ce contrat, pas par des humains avec des gérants d'artistes, là. Je fais ça avec contrat avec des êtres cosmiques. Et le tout a toujours été très bien piloté. On a toujours réussi à franchir tous les obstacles qui nous ont été mis sur notre route. Mais là, Alain Bouchard, qui est sociologue, il nous présente la comparaison entre le sondage qui a passé à la fin des années 80 au Québec et la version moderne de 2015. Et là, il va utiliser le public de Richard Glenn d'ésotérisme expérimental, comme il l'avait fait il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, il l'avait fait. Il lui manquait cette palette dans son éventail d'intervenants. Il y a des étudiants, il y a le grand public qui a fait des sondages dans des centres d'achat, le centre d'achat Place Laurier à Québec, ou dans des expositions ou des salons comme le Salon du Nouvel Âge à l'époque. Mais il avait aussi bénéficié de mes rencontres avec mon public lors de séminaires, de symposiums qu'on faisait à l'Université Laval avec Bernard de Montréal, les sciences cosmiques, etc. Et là, il passait son sondage et les gens ont répondu dans le temps. Et là, on est beaucoup plus tard, 30 ans plus tard, et il n'y a pas accès à ce public-là pour le moment. Il va en avoir accès au cours de l'année 2016. Vous allez être sollicité. Ben oui, vous allez être invité par Internet, ça va être formidable. La dernière fois, il y avait 500-600 personnes qui avaient participé. Maintenant, on a 2000 qui nous suivent à toutes les semaines. Ben, il va y avoir 2000 personnes qui vont être rejointes par Alain Bouchard en disant « Pouvez-vous répondre aux 60 questions du sondage? » Alors, vous allez l'entendre tantôt, vous allez le voir, c'était formidable. Tu as aimé ça hier avec Alain Bouchard. Hein,
absolument, c'était très intéressant.
Oui, hein?
Absolument charmeur, puis convaincant, puis de toute façon. Puis, évidence professionnelle.
Professionnel. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui a une méthodologie professionnelle. Alors ça va être ce qu'on va voir après, mais là, je vais brancher la ligne ouverte. Ben oui, je me dis, écoutez, là, l'émission, là, on l'a fait pas pour se regarder puis se parler entre moi-même puis moi-même ou Alain puis moi. On l'a fait pour qu'on échange avec des gens dans notre monde, dans notre société qui s'intéressent à ces sujets-là. Et la preuve, c'est quand on fait des conférences, on fait des congrès, il y a plein de monde qui viennent. Donc, il y a moyen de retrouver du monde intéressé par ce qu'on se dit. Et vous devez avoir des opinions, des réflexions. Ça serait intéressant de les avoir là, le samedi soir. Et c'est dans l'anonymat. Hein. Tout ce que je vous demande, c'est votre prénom et le nom de la ville d'où vous appelez. Fait que gênez-vous pas, vous êtes bienvenus d'appeler. Puis pour nous autres, ben, on se sent moins seul à se regarder. Alors, je vérifie. La ligne... j'arrêterai pas l'aquarium parce que l'aquarium qui est là, ça va vous permettre. Bon, le micro qui est rendu qui frappe dans ma barbe. J'ai une barbe qui est comme de la broche. La barbe de Père Noël, je l'ai laissé grandir là, exprès pour l'époque de Noël. Pour ça, je garde ma tuque de Père Noël. Parce qu'après Noël, pour la nouvelle année 2016, ça va être une barbe beaucoup plus recto, qui va avoir l'air plus intellectuel. Ouais, recto verso, ouais. Alors, vous pouvez nous appeler. Alors, le numéro de téléphone, c'est sur la rive sud de Montréal. Comme je le disais au début, c'est à Mont-Saint-Hilaire. Donc, 450-467-5606. Si je le montre sur le grand écran là, on vient de perdre notre aquarium. Fait qu'on va garder notre aquarium, mais écrivez-le quelque part. Là. 450-467-5606. C'est très important d'avoir des communications parce que l'année 2016 qui s'en vient, ça va être la clé de voûte de la démarche qu'on va faire. L'information que j'ai reçue depuis une semaine à peine, comme on m'a dit, j'ai dit, comment ça fait que vous ne m'avez pas prévenu avant qu'on parlerait de ça? Ils me disent, si on te dit de tourner à droite, tu vas tourner à droite. Mais on va te dire de tourner à droite quand on va être rendu au tournant. Ça ne donne rien de te le dire quand tu es à Drummondville qu'il faut que tu tournes à droite pour sortir de l'autoroute 20 en t'en venant de Québec sur la 20 avant d'être rendu à Saint-Hilaire. Fait que, ouais, OK, j'ai compris qu'ils nous donnent l'information au fur et à mesure que c'est le moment. Alors, on a quelqu'un sur la ligne et puis, évidemment, vous savez qu'il y a un décalage de 30 secondes entre ce qu'on va se dire au téléphone en direct. Alors, je recommande aux personnes qui vont nous appeler, qui vont nous rejoindre, de baisser le son de leur ordinateur dès qu'ils ont la communication avec nous en studio. Alors, il y a deux lignes. Il y a la ligne 467-5606 et il y a l'autre ligne qui est la ligne de maison privée que mes amis, il y en a quand même une soixantaine, qui pourraient nous appeler et qui ont des compétences pour parler de toutes sortes de sujets. Mais on donne la parole au public. D'où appelez-vous et quel est votre prénom?
Bonjour.
Bonjour.
De Saint-Zénon.
Ben, t'es bienvenue, t'es une habituée, Lison de Saint-Zénon.
Ben oui. Ben, j'appelle pas si souvent que ça, là, mais je te regarde à toutes les semaines pareil.
Ben, bienvenue. Écoute, dis-moi donc, y a-tu de la neige à Saint-Zénon, là?
Ben, il y en avait tombé, elle a fondu aujourd'hui.
Ah, OK, c'est pas
il
plus que ça.
Il reste à l'ombre, là, mais au soleil, là, c'est parti.
Ah, ouais. Ah.
Ouais. C'est vraiment... Peut-être qu'on n'aura pas d'hiver, j'espère.
Ben, tu sais, quand tu parles du réchauffement de la planète, c'est un peu la preuve, hein?
Ah, mais non, c'est pas une preuve, ça. C'est parce que enfin on a eu une belle journée, là, mais on n'a pas eu de l'été des belles journées, là. Fait que il est temps qu'il fasse beau un peu. C'est ça, moi, j'appelle pour te parler de ton aquarium, puis la surpopulation dont tu as mentionné, puis qui me donne la chair de poule à chaque fois.
Oui.
Parce que le mot surpopulation m'écœure, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, puis dans le fond, là, dans le Notre Père, ça dit... Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il donne à tout le monde le pain. Le problème, c'est qu'il y a du monde qui prenne le pain des autres. Fait qu'il y en a qui n'ont pas de pain. T'sais, c'est comme avec ton aquarium, là, quand la madame elle vient donner le manger, si elle en donne pour tout le monde, mais qu'il y en a qui attaquent les autres pour ne pas les laisser manger.
Ouais.
Et mange rien qu'est-ce qui tombe au fond parce que j'arrange tout avec qu'est-ce qui reste. Ou c'est comme la loi du plus fort, là, mais c'est peut-être même le plus qui est plus wise puis qui a des plus grands dents aussi. Là. Puis peut-être aussi si tu rentres un poisson qui n'a pas rapport dans ton aquarium, genre un requin, là, que tu le laisses aller au travers des poissons, il n'aurait même pas besoin de manger les graines. Là. Il va manger le poisson au complet, lui-là. Là.
Ouais, des piranhas, tu connais ça, des piranhas?
Ouais, des piranhas, ouais.
Ouais. T'as-tu vu dans le Journal de Montréal ce matin, dans le Journal de Montréal, il montrait qu'en Chine, dans un zoo de Chine, régulièrement, à tous les deux jours, ils donnent un animal vivant à des tigres. Et ils mettent une chèvre, puis les tigres courent après la chèvre, puis ils la mangent. Elle est vivante, puis elle se sauve. Hein. Alors, ils ont mis une chèvre pas de la cage, parce que c'est justement, ils veulent rétablir un peu l'écosystème naturel. Alors, ils mettent la chèvre là. La pauvre chèvre, elle ne sait pas où elle est aboutie. Puis à un moment donné, elle voit des tigres. Elle se sauve. Ils partent après, puis ils la mangent. Ben là, il est arrivé quelque chose de assez spécial. Ils ont mis une chèvre et la chèvre n'a pas eu peur. Et la chèvre, n'ayant pas peur, est restée là, à brouter, à regarder le tigre. On ne sait pas pourquoi, elle devait être stone un petit peu. Et le tigre...
Ça dépend qu'est-ce qu'elle broutait.
Ben, c'est bon ton affaire, oui. Et le tigre était comme... désorganisé, ils ne comprenaient pas, la chèvre ne se sauve pas, ben, je ne coupe pas après une chèvre qui ne se sauve pas. Ouais, fait qu'il est resté là.
Mon même ami, il marchent un à côté de l'autre. J'ai vu ça cette semaine dans Facebook, là, quelqu'un qui avait publié
ça. Ah oui, OK, il y a des vidéos là-dessus. Alors, Gilles Surprenant, oui, dans le complément surprenant, il va aller mettre ça, c'est sûr. C'est génial, la chèvre accouche avec le tigre. C'est rendu deux grands amis. C'est fou, hein? Si tu pouvais, Geneviève, aller me chercher le globe terrestre qui est en arrière de toi, là, juste là-bas, parce que Lison qui nous dit, il n'y a pas de surpopulation, bien, il y a un exercice qu'on peut faire tout le monde, puis vous pourrez le tester, puis là, je vais le tester avec mon ami Alain ici. C'est qu'on prend un globe terrestre, puis là, je vais demander à Alain, là, tu vas nous voir, Lison, mais 30 secondes en retard. Là. OK. Alors, l'idée, c'est que je prends un globe terrestre, et puis je demande à Alain de se fermer les yeux. Mm-hmm. Ferme-toi les yeux bien comme il faut. Mm-hmm. Mets ton doigt pour aller pointer sur le globe. Moi, je fais tourner le globe. Mm-hmm. Et je te demande de pointer sur le globe quelque part, n'importe où. Bouge plus. Bouge plus, bouge plus. Mm-hmm. D'abord, tu aurais pu tomber dans la mer. OK, mm-hmm. Ouvre tes yeux.
Oh, oui.
Regarde où c'est. Et es-tu capable de me dire s'il y a beaucoup de monde? La région où tu as choisi, c'est quelle région? C'est en Chine, hein?
Oui, ça semble en Chine, je ne sais pas. Je ne vois pas très bien avec l'éclairage, mais... Non, il doit y avoir pas mal de monde, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à manger.
Oui, puis si tu avais
si
une aiguille, ça serait encore plus précis. Oui, c'est dire, ça. À cet endroit-là, y a-t-il vraiment surpopulation ou il y aurait de la place pour t'accueillir?
Ah non, non, non.
Finalement,
pas,
on se dit, la Terre a pu en accueillir encore beaucoup, beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de place. Quand on voyage, on se rend compte que même s'il y a des endroits où des concentrations de population sont hallucinantes, comme à Mexico, ouais, il y a la même quantité de population qu'au Canada. Là. Ouais, mais ouais. En même temps, on passe notre temps à traverser des jungles, des déserts, des espaces vierges, là, c'est sûr.
Ouais.
Non, non. Moi, ce que j'aime, c'est la blague là, banquier, du travailleur et du pauvre qui sont assis à une table.
Okay.
Il y a une femme qui vient servir des biscuits. Elle en met 20 sur la table. Alors, le banquier en prend 19.
T'entends-tu, Lison?
Un peu, oui.
Il en prend 19.
Oui, oui.
Il en laisse un sur la table.
Le banquier, comment tu dis?
Il prend 19 des biscuits. Il y en a sur 20. Il en prend 19. Il en laisse un sur la table et il dit au travailleur, « Fais attention, le pauvre va te le voler. »
Ouais.
C'est ça le problème.
C'est ça. Ouais.
Le problème, c'est la distribution des richesses ou, dit autrement, parce que c'est pas juste une question monétaire, ça peut être la distribution de ce qui produit, de la nourriture, etc.
La dette dans laquelle on est embarqué, qu'on donne notre argent à des banques qui ont inventé de l'argent au bout du crayon, puis qu'ils nous chargent des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé parce que nos présidents
absolument.
Des années passées sont laissés embarquer dans ce système de banque-là. Là.
As-tu vu sur le forum, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo extraordinaire sur la raison pour laquelle on a éliminé Omar Kadhafi. Là. Et Kadhafi, il voulait créer une banque africaine et créer les États-Unis d'Afrique. Et il y avait les moyens financiers, lui, il y avait de l'or accumulé depuis longtemps avec la vente du pétrole puis des pétrodollars. Il voulait créer quelque chose qui aurait été en compétition avec le dollar de tout le monde. Et aussi même les pétrodollars. Oui, mais ça aurait été une pièce de monnaie panafricaine pour les Africains. D'ailleurs, la raison pour laquelle on a éliminé Kadhafi, c'est ça. Parce qu'il voulait devenir économiquement indépendant. Et d'autre part, Saddam Hussein, lui, qui était en Irak, il voulait payer son pétrole de l'Irak par des euros au lieu d'être payé par des dollars américains. Et alors là, les Américains ont dit « Non, non, mon boy, tu ne te débarrasseras pas de nous autres comme ça. » Alors, ils l'ont démoli. On réalise que, tu mets le doigt là-dessus, le problème, ce n'est pas qu'il manque de place ou qu'on manque de nourriture ou qu'on, comme dirait l'histoire de l'Ain, c'est ça, c'est qu'il y en a qui ont un intérêt de saisir tout ce qu'il y a de bien possible.
Et là, trop gros appétit.
On n'est pas capable de se dépenser ça, c'est juste pour nous l'enlever, pour se payer des guerres, pour qu'on s'entretue. C'est dans le fond, à quelque part, c'est le diable qui mène ça, puis qui veut tout nous amener en enfer, puis qu'on se batte pour le dernier miche de pain, là.
Ouais, je te dis, t'es pas pire, Lison. Lâche pas, appelle de temps en temps, c'est bon d'entendre des gens qui ont des opinions. C'est sûr que ça a l'air fanatique ou extrême, mais c'est loin d'être extrême. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alain? Écoute, Lison, on va te laisser pour laisser la place à d'autres.
C'est correct. Bye-bye, puis je passe des joyeuses fêtes.
Ah, ben on va se reparler sûrement. Là. Il y a encore la semaine prochaine, dans deux semaines, puis dans trois semaines. Donc, même le 26 décembre, on va faire la vidéo rendue de samedi soir, le 26. Alors, on est là tout le temps, tous les samedis.
Moi aussi, je vais être là.
Ben, merci, Lison. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Bye. Oui, mais qu'est-ce que tu penses, toi, des gens qui ont maintenant des opinions? Là? Hey, écoute, il y a 30 ans, là, les gens écoutaient la famille Plouf, là, il y a 50 ans, puis ils ne se posaient pas ces questions-là, puis ils n'arrivaient pas à ces conclusions-là qu'on a aujourd'hui.
Non, c'est sûr. C'était très, très intéressant qu'on puisse partager nos opinions. C'est sûr qu'on est dans une ère d'information où l'information circule, les gens se font leur idée. C'est très enrichissant de pouvoir échanger.
Allez préparer Alain Bouchard, comme j'ai dit. Continue okay. Pendant que je vais aller préparer Alain Bouchard.
C'est sûr que on s'entend qu'il y a un enrichissement, disons, qui vient de la capacité qu'on a de communiquer entre nous, de se mettre en réseau. L'Internet, là-dessus, c'est quasiment quelque chose comme un nouvel état du système nerveux de l'individu qui se transpose dans le collectif. Disons que c'est un grand, grand progrès. L'ombre de ça, si je peux émettre une opinion, c'est qu'en même temps, on tombe un peu trop dans le règne de l'opinion. C'est-à-dire qu'à cause de cette richesse de communication-là, disons que le risque, c'est que toutes les opinions soient mises à plat comme étant du même niveau. Alors l'opinion d'un scientifique qui a étudié un dossier pendant 40 ans devient équivalente à l'opinion de quelqu'un qui a pogné une information sur l'Internet puis qui la relaie à son groupe d'amis. Alors, sur ce plan-là, il y a un petit bémol. Là. On le voit, là, disons, dans les conflits d'opinion qu'on peut retrouver sur la question du climat, par exemple.
Mm-hmm.
Alors, c'est évident que les arguments ne se valent pas toujours. C'est juste ça que je veux dire. Il y a des gens plus compétents que d'autres. Et ça, il faut apprendre à penser hiérarchiquement, apprendre à penser qu'il y a des niveaux différents de langage.
C'est ça.
Aussi.
Ah oui. Bon, on va prendre l'appel pendant qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Oui, votre prénom est d'où appelez-vous?
Marseille, en France.
Vous appelez vraiment de Marseille, en France?
Je vais te répéter, t'avais ton micro.
Alors, Jack, vous appelez de Marseille. D'abord, Jack, c'est un nom américain.
Ah, c'est pas mon vrai prénom.
Ah, d'accord. Mais quelle heure est-il actuellement en France?
À 2h56.
Ah, d'accord.
Du matin.
Alors là, je vous crois, parce qu'on a une horloge qui nous permet de voir l'heure d'Europe. Quelle météo avez-vous présentement à Marseille?
Bon, aujourd'hui, il n'a pas fait très, très beau, mais bon, ça va quand même. Il faisait gris, un petit peu, il faisait gris. D'habitude, ouais. On a plutôt du soleil, mais il faisait gris aujourd'hui.
Ah, OK. Chez vous, à Marseille, vous ne devez pas avoir beaucoup de neige, comme ici au Québec, habituellement, l'hiver, hein?
Non, effectivement, on n'a pas de neige, oui.
D'accord. Alors, allez-y, vous avez un commentaire, une question, allez-y.
Moi, je vous appelais, donc, c'était par rapport au thème de l'aquarium. J'ai une question pour vous. Je me demandais, vous, dans l'aquarium, comment vous vous percevez?
Ah, c'est bon comme question. Essayez de savoir chacun de soi, pour soi, comment on se percevrait si on était dans un aquarium. Autrement dit, est-ce qu'on serait le poisson rouge en montrant au bout du doigt, là, présentement, ou est-ce qu'on serait un poisson vidangeur, ils les appellent comme ça, les poissons qui ramassent les cochonneries. Toi, Jack, ce serait quoi ton choix?
C'est-à-dire, c'est pas comme ça que je voulais dire. Du point de vue du poisson, celui qui est à l'intérieur, donc, autrement dit, vous, Richard, ou vous, Alain, si vous êtes le poisson dans l'aquarium, comment vous, en tant que poisson, vous vous percevez? Est-ce que vous percevez en tant que poisson en relation avec les autres poissons qui se regardent, ou est-ce que vous percevez en tant que poisson en relation avec l'extérieur de l'aquarium?
Intéressant, Alain. Attends un peu, je pose la question à Alain, puis j'espère qu'il va parler assez fort que tu puisses l'entendre.
Ben, c'est sûr que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'allégorie d'un poisson qui, tout en étant en communauté avec les autres poissons, fait tout le travail nécessaire pour ajuster ses perceptions, pour ajuster son point de vue, de façon à voir au-delà de la paroi. C'est ça l'idée. C'est que,
toi, tu serais le poisson qui se tient sur le bord de la vitre là, pour voir de l'autre côté de la paroi qu'est-ce qu'il y a.
Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas les autres poissons. J'adore communiquer avec les autres poissons. Mais l'idée, c'est que pour toutes sortes de raisons que j'ai même commencé à mentionner, j'ai été amené à me dire, mais il y a autre chose. Donc, il n'est même pas nécessaire. C'est ça qui est fascinant.
Tu l'entends-tu bien, Jack?
Un peu difficilement, j'entends, mais pas parfaitement.
Ah, OK. C'est parce qu'on est avec un téléphone, avec un micro, donc on ne peut pas déplacer le micro. Alors, il faut qu'Alain parle plus fort puis se rapproche.
On découvre que le poisson, il pourrait, là, mon poisson allégorique, là, imaginaire, il peut ajuster son regard un peu, sortir de la myopie à laquelle il est habitué, mm-hmm. puis regarder plus loin que la paroi, à travers la paroi. En fait, c'est juste un problème d'ajustement de la perception. Il n'est pas nécessaire de sortir de l'aquarium pour voir qu'il y a quelque chose dehors. Et qu'en regardant bien ce qui est dehors, on peut comprendre des leçons sur comment on devrait vivre dans l'aquarium. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre à regarder au-delà de la paroi.
L'as-tu compris un peu, Jack?
Oui, bon, je comprends. Si je peux me permettre une remarque, moi, ce n'est pas du tout ma perception des choses.
OK, vas-y, oui, ça va être intéressant d'avoir la tienne aussi.
Pour ma part, le poisson qui est dans l'aquarium, il se croit dans l'aquarium jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'y est pas.
Oui,
c'est-à-dire qu'à un moment donné, le poisson qui est dans l'aquarium, il comprend qu'en réalité, il est à l'extérieur de l'aquarium et il pilote un genre de poisson qui est dans l'aquarium.
Ah oui!
Attends un peu, là, Jack, attends un peu, là. Je comprends, c'est métaphorique, ton idée, mais c'est pas la réalité. Le poisson qui est dans un aquarium, il est dans l'aquarium, il est le poisson qui est dans l'aquarium, comme toi, tu es sur la planète Terre. Est-ce que tu veux me dire que tu serais un être humain qui est déjà conscient d'être piloté par quelque chose de supérieur à l'être humain qu'on rencontrerait? Si je te serre la main, je te fais l'accolade, Jack, c'est comme si on est juste comme des marionnettes manipulées par quelque chose qui est soi, réellement, en dehors de notre corps, de notre être.
Oui, mais moi je pense que c'est la réalité. Enfin, je suppose que c'est la réalité
de tout le monde. Exactement. De tout le monde.
Oui, c'est ce que je suppose, oui, effectivement.
OK, est-ce que ça ne te fait pas penser un peu au film La Matrice?
Oui, c'est un peu ça l'idée. Oui, tout à fait.
Exactement. Ah, intéressant. Est-ce que tu nous suis depuis longtemps?
Oui, ça fait longtemps que je me suis. Oui, ça fait longtemps. Quelques années.
Parce que
j'avais vu la découverte de Bernard de Montréal.
Ah, ouais.
Après, j'avais pu écouter beaucoup de ses conférences, lire un petit peu ce qu'il avait écrit. Puis, ça fait peut-être une dizaine d'années, hein, même plus que ça, que j'ai pris le temps d'essayer d'écouter et puis de digérer tout ça. Et puis, là, le Vidéorandia, ça doit faire peut-être au moins, régulièrement, ça doit faire 2 ans à peu près.
Ah, ben c'est bon.
Facilement 2 ans. Et c'est toujours très intéressant. Et d'ailleurs, là, j'ai vu récemment sur le forum quelque chose d'extrêmement intéressant, je vais me renseigner là-dessus, c'est les unités Magrave.
Ah, là, mon ami, tu touches à quelque chose. Écoute, à Paris, là, c'est chez vous en France, là, il y a la fameuse réunion COP21. Et la semaine qui passe actuellement, c'est la semaine des solutions proposées dans une place qui est à Paris même, dans la ville, alors que eux, là, les grands dignitaires, puis COP21, ça se déroule à l'aéroport Le Bourget, c'est en banlieue nord de Paris. Mais là, les solutions, et parmi les solutions que je chéris particulièrement, c'est la Fondation Keshe. Et il y a de l'information originale qui m'est donnée. Et on va en parler beaucoup dans les semaines qui viennent au Vidéorandia ainsi qu'au début de l'année 2016. Puis en parlant de Bernard de Montréal, dans l'année 2016, presque toutes les semaines, il va y avoir des extraits, des archives d'ésotérisme expérimental. Parmi les 40 ans que j'ai passé à faire de la télévision ici au Québec, j'ai reçu des grands noms. Parmi ceux-là, il y a Bernard de Montréal. Et tu auras l'occasion de le voir et d'entendre des anecdotes très croustillantes concernant Bernard de Montréal, qui est un maître dans son domaine. Hein. Ouais.
Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Nous, depuis la France, en tout cas moi, je m'interroge beaucoup sur... sur la fin de sa vie, comment ça s'est passé, des choses qui sont pas du tout connues, ça n'a pas d'intérêt en réalité, mais d'un point de vue par la curiosité tout simplement, parce que il parlait beaucoup par exemple du fait de, il me semble, hein, il parlait du fait de que mourir c'était pas quelque chose de normal, Et je comprends pas comment un individu comme lui, par exemple, qui a défendu pendant très longtemps une certaine vision des choses, on a pu finalement arriver à mourir. Enfin, mourir façon de parler, mais on a pu finalement arriver à ne pas sauver son corps, quoi, d'une certaine façon. Voilà.
Je te comprends. C'est malheureusement le dû de beaucoup de grands maîtres qui un jour prétendent, même avant de mourir, 15-20 ans avant de mourir, je vais vivre, je comprends comment on peut survivre à la mort et ne pas mourir de son corps biologique. Mais il y a une autre façon de régler le problème, c'est que il faut mourir de la mort blanche, c'est-à-dire de ne pas perdre conscience au moment ou un peu comme on disait avec le poisson tantôt, aller se noyer dans l'aquarium, un être humain qui tombe dans l'eau, ben il va se noyer. Sauf qu'il pourrait très bien apprendre à exister dans l'eau, et ou alors, quand on quitte notre corps, de garder notre conscience. Je sais pas, Alain, je vais demander à Alain ce qu'il pense de ça, là, l'idée de la survie, parce que, tu sais, mère, Aurobindo, puis toutes les autres, puis des grands maîtres orientaux laissent entendre qu'il était pour vaincre la mort, qu'il était pour ne pas mourir.
En particulier, mais Aurobindo, ouais. Peut-être pas tant que ça, mais
là, c'est fort que
mère, oui. Mais c'est sûr que pour moi, il ne faut pas confondre ce que j'appellerais le côté l'allégorie, là, par exemple. Là, on a fait l'allégorie de l'aquarium, tu m'arrives. Jack, puis tu me dis oui, mais on est aussi en dehors du poisson, en train de piloter le poisson. C'est une autre allégorie. En fait, autrement dit, on peut regarder ces choses-là d'un point de vue, on peut les regarder d'un autre. C'est sûr que dans la série que je mentionnais, j'ai mentionné aussi que l'expérience qu'on vit, d'un certain point de vue, peut être vue comme un rêve.
Ouais.
Donc, dans ce sens-là, c'est sûr, c'est un rêve rêvé par celui-celle qui nous rêve. Donc, il y a plusieurs métaphores. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de la métaphore, à l'intérieur de la situation se déploie à partir des règles de ce jeu-là. Mm-hmm. Comme disait Gurdjieff, même Dieu ne peut pas gagner au bridge avec 5 as. Parce qu'il y en a 4 dans ce jeu-là. Il y a un moment donné où il y a des lois fondamentale du jeu. Le jeu peut être un rêve, le jeu peut être seulement un plan, il peut y avoir d'autres plans, mais à l'intérieur de ce plan-ci, on oui. meurt jusqu'à preuve du contraire. Là. Et c'est pour ça que souvent, je vais dire, on est éternel, mm-hmm. mais on n'est pas immortel.
OK. Est-ce que tu as quand même bien saisi la nuance? Jacques, on va te demander bientôt de quitter la ligne pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Mais en même temps, moi, je voulais vous montrer un professeur d'université qui est sociologue et qui a étudié, on pourrait dire, l'influence de l'ésotérisme expérimental, mon émission qui était diffusée sur ici dans la province de Québec depuis 1976, autrefois à la télévision, maintenant sur Internet. Et il nous a fait une conférence extraordinaire hier à l'Université Laval de Québec. Alors, on va aller le retrouver dans quelques instants. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir communiqué avec nous. Ça, je ne sais pas si tu as des frais de téléphone, parce qu'on reçoit rarement...
Non, c'est inclus dans mon forfait de téléphone. La plupart des forfaits téléphoniques en France, c'est inclus les appels vers le Canada. Donc, on paye un forfait mensuel et les appels vers le Canada sont inclus dedans.
Et ta manière de communiquer ici, c'est quoi l'indicatif que tu t'inscris ou tu pitonnes avant de commencer mon numéro de téléphone, c'est quoi?
001.
Et ensuite, 450-467-5606. Alors, qu'on s'en souvienne, c'est 001. Et le numéro pour nous rejoindre ici, c'est 467, c'est 450, le code de la région, 450-467-5606. Hey, c'est très génial. Bien, merci beaucoup, Jack. Au plaisir de te réentendre.
C'est un plaisir.
Au plaisir de vous réentendre aussi. Au revoir.
Au revoir. Et puis pour lui, là, il est maintenant 6h10 du matin. Donc, non, 3h10, oui, il y a 6h de décalage. Donc, on va maintenant se diriger, on va quitter bientôt l'aquarium. Vous le voyez, je m'en viens avec la caméra. Et pour 2016, vous allez voir que la technologie va être très améliorée, mes amis. Il fallait prendre le temps de s'organiser, de bien s'équiper. Et là, on fait un petit peu l'unité de lieu, unité de temps. Unité dans l'espace et dans le temps, parce qu'avec une caméra, vous voyez notre décor, vous êtes la caméra et vos yeux. Mais comme vous ne pourriez pas switcher d'un être. Là, on voyait notre amie Geneviève. Bonjour Geneviève.
Allô.
Oui. Allô, c'est bien dans l'idée d'aujourd'hui avec l'aquarium. Allô.
C'est le nom de notre poisson imaginaire hier.
Oui, c'est ça le poisson imaginaire hier. Alors, je descends de tout et on va aller voir maintenant notre ami M. Bouchard, Alain Bouchard. Là, je le prends, comme je vous dis, là, presque au hasard.
C'est dit ça. On est sûr que c'est bon. On peut y aller? Bon. Donc, on est face à des gens qui sont dynamiques. Et là, tout à coup, quand on a regardé notre population, et là, je vous rappelle, ce sont des gens qui ont visité le Salon du Nouvel Âge, il y avait une forte majorité qu'on pourrait identifier encore comme appartenant, tout au moins, d'un point de vue patrimonial au catholicisme, c'est-à-dire aux croyances, auxquelles vont s'ajouter des croyances plus modernes, on a appelé ça l'ultramodernité, puis en bout, vraiment une infime minorité qui ajoutait des choses très, très pointues, qu'on va appeler les Nouvel Âge. On leur a donné même un vocabulaire presque ésotérique. Là, on a parlé des initiés, puis des... Mais tout ça pour vous dire que... et l'image que moi j'utilisais à l'époque, hein, et d'ailleurs, la dernière fois où on s'est vu, je présentais, je pense, ces résultats-là. C'était à l'Université du Québec à Rimouski, au congrès de l'ACFAS. Et l'image que j'utilisais, c'était... Ben, le Nouvel Âge, qu'est-ce que c'est? Vous avez un gâteau, qui est le catholicisme, qui a un léger glaçage qu'on va appeler l'ultramodernité. Réincarnation, mais une réincarnation soft et qui correspond bien à l'esprit du temps, sur lesquels on va saupoudrer, vous savez, des espèces de M&M, là, mais il n'y en a pas beaucoup, des petits chocolats. Et ça, c'est le Nouvel Âge. Et ça nous permettait de distinguer deux types d'individus. Il y avait ceux qui... Oui, surfait sur ce qu'on appelait le Nouvel Âge, mais sans aucune implication ou à peu près. Puis moi, l'idée qui m'est venue, c'est l'idée d'un excursionniste. Parce que j'ai un de mes bons collègues à la faculté qui est un ornithologue vraiment là très avancé. Et quand je vais faire l'observation d'oiseaux avec lui, moi, je dis toujours, je vais voir ta volaille, mais moi, je vois rien. Hein. Mais André voit tout, surtout entend tout. Hein. Donc, moi, je suis un excursionniste. Ce qui fait qu'un excursionniste, il fait une balade en forêt, et quand il revient, il dit, ah, ça a été extraordinaire. Il faisait beau, la température était belle, j'ai entendu des beaux chants d'oiseaux, ça sentait bon. Mais si on leur demande quel type de plante t'as vu, quel type d'oiseau, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être que va créer cette excursion-là. Alors que l'explorateur, lui, va dire, hey, j'ai vu 28 espèces aujourd'hui, et 28 espèces d'oiseaux, puis 50 espèces de plantes, par exemple. Et on a exactement la même chose dans le domaine du religieux.
Équivalent, 50-50?
Ah non. On pourrait aller à 80-20 sur l'ensemble. Si on prend
80 excursionnistes et
20, exactement. Ouais.
Qui vont...
exactement. Et c'est pour ça que je vous disais, ceux qui étaient ici, là, il y en avait très, très peu sur tous nos répondants et à partir des sondages qu'on avait pu faire dans d'autres sphères. Conclusion, qu'est-ce que c'est que le Nouvel Âge? La définition que j'en ai tirée, c'est... On est maintenant face à un phénomène de consommation de masse en matière de religion. Tout comme on consomme des biens matériels, comme par exemple les céréales, une des grandes différences entre notre point de départ et le point où on est rendu, c'était, moi quand j'étais jeune, là, puis je voulais des céréales, j'avais le choix entre trois ou à peu près. Ma mère voulait me faire manger des cornflakes. Moi, je voulais des sugar frosted flakes. Et puis, finalement, on se retrouvait qu'un entre deux. Mais je sais pas si vous avez déjà été dans un rayon de céréales, dans une grande épicerie aujourd'hui, mais vous en avez des centaines de sortes. Hein? Et ça, c'est une des caractéristiques de notre monde d'aujourd'hui. Dans le domaine du religieux, c'est exactement la même chose qui s'est mise en place. D'où, si dans les années 70, on est passé on est 6 millions, faut se parler, au je bois mon lait comme ça me plaît. Si on avait une maxime pour les années 90, c'est « je dépense, donc je suis ». Si je veux faire une caricature avec une phrase célèbre, hein, je pense... Et il faut la retenir, celle-là, parce que c'est ce qui va marquer les chiffres qui s'en viennent. D'où... excusez, je vais juste... Ah, là, voilà. D'où, 25 ans plus tard ou à peu près... c'est l'an dernier, vous le voyez, 2014, entre le 18 et le 24 février 2014, je décide de refaire le même type d'exercice. Alors que j'avais 583 étudiants, et là, ça a été seulement avec les étudiants. Donc, ça n'a pas valeur universelle, mais on a une population, d'un point de vue socio-démographique, là, on a à peu près le même type d'individus. Je me plaisais à dire, il y a 25 ans, j'ai interviewé leurs parents, maintenant c'est les enfants, parce que dans bien des cas, Denis peut en témoigner, j'ai un collègue avec moi ici, et il y a des étudiants qui viennent voir pour dire « Hey, mes parents ont déjà suivi ton cours ». Je me rappelle, il y a quelques années, il y en a qui m'ont dit « Hey, mes parents se sont rencontrés dans ton cours ». J'ai dit « Tant qu'ils t'ont pas fait dans le cours, on n'a pas de problème ». Alors, s'il y en avait 583 en 1988, j'en ai eu 2076 en 2014. Et pourquoi? Ben là, c'est l'Internet. Hein, on a maintenant, dans toutes les institutions d'enseignement, on a des portails d'accueil hein, où les étudiants, maintenant, ils font leur choix de cours. Tout circule par... Et on m'a donné la permission d'utiliser ce portail-là pour déposer mon questionnaire et inviter les étudiants et les étudiantes à répondre. Ça veut dire une personne sur trois. Et il n'y a pas eu de grand dérapage parce que on trouve à peu près le même nombre de gars et de filles dans les programmes, la répartition. Donc c'est vraiment représentatif de la population du collège. Comme c'était sur Internet, j'ai diminué un peu le nombre de questions, mais j'ai gardé l'essentiel. Tenez-vous bien, regardez bien les résultats 25 ans plus tard. On va les prendre par catégorie, c'est pas dans l'ordre où je posais les questions. À quelle religion vous vous identifiez? Aucune, 9% en 88, 47% en 2014. Une augmentation de 422%. Si vous regardez catholique, il y en avait 85% en 88, il y en a 43% en 2014. Vous allez voir, toutes les croyances ou tout au moins identification religieuse, tout va chuter de moitié en 25 ans ou à peu près. C'était période électorale, j'en ai profité juste pour être capable de faire peut-être des... Mais vous voyez, hein, quand on parlait de la désaffection des jeunes face aux politiques, ben on l'a ici, 50% des jeunes ont demandé de répondre au questionnaire, je vous rappelle c'est février 2014, ne s'identifiaient à aucun parti politique. Les croyances dites traditionnelles, c'est-à-dire catholiques, je crois en Dieu, hein? On passe de 63 à 21%, une perte de 67%. Hein? Dieu qui observe nos actions. Alors, vous voyez, regardez, on fera pas tous les chiffres, là, parce que ça peut devenir lassant, mais comme vous voyez, à chaque fois, là, il y a Jésus-Christ et Dieu, on passe de 40 à 8%. Hein, une perte de 80% et ainsi de suite. Donc,
est-ce que ce rapport-là, Alain Bouchard, on peut le retrouver quelque part? Est-ce qu'il y a un livre ou sur Internet, est-ce qu'on peut l'avoir?
Pas pour le moment. Moi, je l'ai diffusé autour de moi, mais j'ai pas de plan. Mais là, ici à l'université, on commence à élaborer une plateforme et on va parce que moi, je veux qu'on l'utilise ici, là, dans
certaines enquêtes. En tout cas, je vous l'offre là, comme ça, oui. Là, mais.
Ah ben moi ça me donne
un PDF que vous avez oui. là ou PowerPoint oui. Là. Si vous m'en donnez une copie, moi je vais le rendre
disponible. Ah ok, ben avec plaisir. Oui, ben avec plaisir. Moi ça me dérange pas au contraire. Je pense qu'il faut pour moi le savoir, il doit être diffusé.
Oui. Et parce que là, on aura le temps de lire.
Je exactement.
Mais je suis hautement intéressant.
Oui. Oui, c'est ça. Je vous présente les grandes lignes et un peu
pour 20 minutes.
Pour 20 minutes, c'est beau. Oui, on est en plein.
Alors, vous comprenez qu'on n'écoutera pas en entier toute la conférence ici. Alors, on va rallumer la lumière, Geneviève, et on va voir notre ami Alain qui va passer un commentaire. C'est un beau moment. Au hasard, là, je suis tombé sur ce passage-là où, justement, on réalise que là, on voyait l'aspect des étudiants, hein, alors qu'il y a deux autres aspects, l'aspect public, puis l'aspect du clan ou du groupe de Glenn. Hein, oui, ils l'appellent comme ça. Là.
Mm-hmm. Et... trois publics cibles.
Oui, c'est ça. Puis le public de Glenn, ben, pour 2015, ça va être 2016. Ça va être le public qui nous suit présentement, soit par Internet ou lors des conférences à l'Université Laval. Mais c'est quoi ta première réaction avec ce qui nous laisse entendre? Puis toi, tu es allé commenter à un moment donné, puis il a adoré ton commentaire.
Ouais, on a eu un bon échange, oui.
Oui, adoré, vas-y.
Je sais pas, mais on s'est bien compris. Moi, j'ai trouvé sa recherche vraiment intéressante. Ce que je me suis effectivement demandé, si c'était pas un peu décourageant. Parce que, à quelque part, j'ai pas beaucoup de nostalgie pour le monde catholique d'où on vient, mais j'ai un peu l'impression qu'on se trouve acheter le bébé avec l'eau du bain.
Ouais.
Et que d'une certaine façon, il y a une confusion dans l'esprit de bien des gens entre religion, où il y a institution, et souvent une certaine forme de fondamentalisme, et des règles peut-être trop étroites, etc. Puis, en même temps,
spiritualité qui est vraiment beaucoup plus là, dans l'allégorie de voir au-delà de la paroi, là, disons, d'être connecté à quelque chose d'autre. Mm-hmm. Et effectivement, on le mentionnait, regarder au-delà de la paroi pour le poisson dans l'aquarium, ça peut ne pas sembler important. Parce qu'il est limité à ses besoins immédiats. Donc,
ben ouais.
C'est un peu ça que notre ami disait, c'est qu'on est rendu dans une société beaucoup plus de consommation dans laquelle je consomme, donc je suis, hein, c'est ça. Et je suis allé le voir, puis c'est ça, tu me demandais l'interaction. En fait, ce que je lui ai souligné, c'est que... dans la période où il y avait beaucoup plus de gens qui étaient catholiques, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y avait si tant de gens qui étaient spirituels.
C'est ça, ils ne faisaient pas nécessairement de démarche spirituelle. Ils étaient là pour être bien habillés le dimanche, pour rencontrer du monde. C'était le côté social aussi, beaucoup. Oui, là, c'est la société,
ça fait partie d'une certaine démarche spirituelle. Je ne veux pas non plus nier qu'il y en avait une, mais... Le fait est qu'on retrouve toujours un peu les mêmes courbes. À un autre moment dans sa conférence, il montre que certains de ses modèles suivent la cloche de Gauss, qui est comme quelque chose d'assez universel quand on observe des populations.
Ouais.
C'est que il y a une courbe comme ça dans laquelle à un des extrêmes, il y a très, très peu de monde.
Puis à un moment donné,
il y a une moyenne, puis après ça, il y en a très peu aussi.
C'est ça.
Alors, dans chaque groupe, il va toujours y avoir... une moyenne où il y a plus de monde. Alors,
ce qu'on appelle la masse.
C'est
la masse est dans le milieu.
Ben, c'est forcément dans le milieu.
Puis, aux deux extrêmes, tu as les retardataires et tu as les précurseurs.
D'une façon ou d'une autre, selon le système qu'on a.
C'est ça.
Alors, si on est en train d'analyser, par exemple, le quotient intellectuel, ben, il y a une majorité qui a un quotient normal, puis il y en a une minorité qui a un quotient vraiment faible, puis il y a une minorité qui a un quotient vraiment très élevé.
Ah, exact, ouais.
Alors, c'est un exemple. Mais au niveau de n'importe quel autre modèle, que ce soit des modèles économiques, des modèles politiques, ça suit toujours un peu cette courbe-là qui fait que il y a une minorité à un bout, une minorité à un autre, puis une somme. Alors, parmi les catholiques, ben, les catholiques vraiment pratiquants, pour qui ça constitue une démarche spirituelle, intériorisée, tout ça, ben, il y en avait forcément une minorité.
Mm-hmm.
Puis, des gens qui n'y croyaient pas du tout, à l'époque où tout le monde y croyait, il y en avait finalement très peu.
Okay.
De la même façon, dans un modèle nouveau, où les gens ont tendance à avoir... peu d'intérêt pour les questions religieuses, bien évidemment, il existe encore une minorité qui en ont beaucoup d'intérêt,
ah ouais, okay.
Puis une minorité qui en ont, mais alors vraiment pas, qui sont athées. Il y a en fait très peu de gens qui sont vraiment athées, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux. Alors, c'est une courbe comme ça. Donc, ma première impression, c'était d'être découragé, mais après ça, en échangeant avec lui, on est venu à un commun accord de dire qu'en fait, ça n'avait pas beaucoup changé. Parce que même à une époque où la religion était dominante, il devait y avoir en réalité très peu de personnes pour qui ça constituait une véritable inspiration spirituelle. Et dans une période où il n'y a pratiquement plus personne que cette chose-là intéresse, il y a évidemment la même minorité pour qui c'est fondamentalement important.
C'est ça.
En fait, plus ça change, plus c'est pareil.
C'est ça.
Ça change vraiment, et c'est pour ça que sa recherche est passionnante, parce qu'elle nous montre comment un paradigme a changer, mais dramatiquement, je veux dire, considérablement, en à peine 25 ans.
Autrefois, c'était l'Église qui dominait. Aujourd'hui, il l'a montré, c'est la science qui domine.
Mais
la science n'est pas conscience. C'est ça le problème. Tu sais? C'est une science de fait. D'ailleurs, il dit, les gens recherchent non pas les faits, mais ce qui les intéresse, c'est les effets.
Oui. L'effet.
Pas les faits, mais l'effet.
Mm-hmm.
Ah oui, c'est ça. Je tiens à
dans
dire
le Nouvel Âge, entre autres, il parlait de ça. Hein,
oui,
pas les faits, mais l'effet.
L'effet
il parlait du yoga particulièrement. Ça, c'était intéressant. Ouais. Où il expliquait que majoritairement, dans les gens qui avaient enquêté, qui s'intéressaient au yoga, très peu de personnes les faisaient pour ce que ça a de spirituel réellement,
okay.
Comme une recherche intérieure, mais plutôt parce qu'ils se sentaient bien et que ça leur permettait de mieux performer au travail, par exemple.
Je vais chercher un petit document. Là, puis,
ils recherchaient donc l'effet plutôt que les faits qui sont liés à cette tradition-là.
Tu parles de yoga. Pendant que tu parles de yoga, je vais parler à mon public. prends connaissance de ça pendant que je vais parler au public pour leur dire que ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait très court là, de la conférence donnée par M. Alain Bouchard, sociologue des religions, des sectes, etc. Le sondage qu'il a fait dans les années 80, retour dans les années 2014 avec les étudiants, 2015, 2016 avec le public de Glenn. Ça, on va retrouver ça dans la salle du Club Créé du mois de décembre, la salle 15-12, 12e mois de l'année. Oui, du mois de décembre 2015. Et on aurait, si on avait eu le temps, mais je pense qu'on va le laisser passer encore, c'est notre ami Jean de Flore qui va revenir d'Europe parce que présentement, il est en Europe et à son retour d'Europe, ben, il va nous donner un compte-rendu un petit peu. Puis là, on aura l'occasion de voir ce qu'il nous avait dit parce que ça, c'était disponible dans la salle du mois passé, du mois de novembre. Alors, vous comprenez que le vidéo rendu du samedi soir, c'est un rendez-vous dans le studio ici à Mont-Saint-Hilaire avec notre public en général, mais et puis ça, Alain, tu es d'accord avec moi, la crème de l'information, elle est dans le Club Créé. Mmh. Et on ne peut pas, comme on dirait, les gens qui veulent vraiment aller dans une démarche intéressante, c'est plus austère, mais c'est plus, je dirais, structuré qu'un vidéo rendu où on ne sait pas qui va appeler, on ne sait pas trop jusqu'à quel point on va aller dans un domaine. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment moins, il y en a qui m'aiment, il y en a même moins. Il y en a qui aiment la controverse avec Roch La Rochelle puis François Chartrand. D'autres, ils vont aimer mieux ta philosophie, le moment de réflexion. Alors que dans le Club Créé, c'est vraiment, j'allais presque dire,
un peu plus à la carte aussi.
Oui, c'est ça.
C'est qu'on peut choisir, évidemment, les sujets. Ils sont plus sur un thème, ils sont plus orientés sur
la conférence d'Alain Bouchard, tu
sais,
ben
oui, combien? C'est une conférence en soi.
C'est du 9 sur 10, ça.
Absolument, hein? C'est très intéressant.
Alors, oui, ça sera à suivre dans le Club Créé du mois de décembre 2015. On remet, lors des conférences et en allant dans le Club Créé, un document qui porte sur le thème du mois. Là, vous le voyez, c'est sur l'aquarium, évidemment. Et beaucoup d'informations. Et l'aquarium que nous vous avons montré au cours de l'émission aujourd'hui, on le retrouve à l'intérieur de ce document-là. Le lien est disponible parce que ça, c'est le document en papier, mais il est en PDF sur Internet. Et ce bel aquarium-là, ben, il est disponible sur YouTube. Tout le monde peut aller le chercher. C'est thérapeutique. C'est un beau moment de méditation, de réflexion. Et le lien est disponible. Vous le cliquez et vous y aurez accès. C'est un complément. Tout ça, ça se tient. Je vous donne de l'information vite, vite comme ça. À partir de 2016, on continue avec l'ésotérisme expérimental. Je ne le savais pas avant d'avoir eu mes contacts récents qui ont eu lieu la semaine qui vient de passer, la semaine dernière. Et pourquoi? Parce que, comme on dit, pas parce qu'on va me dire de tourner à droite que je vais tourner à droite. Ils attendent qu'on soit rendu au moment de se faire dire « Maintenant, on tourne à droite. » Ah, OK, on tourne à droite. Et là, on aboutira un peu comme notre ami de France, là, de Marseille, qui nous a dit tantôt, il dit que c'est le fameux Maglav qui l'intéresse. Et j'ai eu des contacts cette semaine avec des universitaires dans le domaine. Ça fait partie des inventions de la Fondation Keshe. Et j'ai de l'information extra... Tu m'as entendu en parler hier à Québec, puis en automobile. C'est bon?
Non, mais c'est vrai, c'est intéressant.
C'est très intéressant. Puis, et toi, tu as même rajouté des éléments ésotériques qui complètent avec Gurdjieff et tout. Hein? Fait qu'on va se retrouver encore pour parler d'invention. Et c'est les solutions. On attend de COP21 des solutions, pas juste des... Et puis on sent qu'encore une fois, Alain, tout le long du voyage en allant à Québec, il dit « J'ai hâte de voir de quelle couleur va être la souris. »
Donc ça va accoucher.
Ouais. C'est ça.
Souris verte?
À la souris verte, c'était le petit doigt, hein?
Espérons-le.
Une souris verte. Oui. Alors oui, Gilles va mettre dans le complément surprenant, comme à l'habitude, des informations complémentaires à tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu au cours du vidéo rendu numéro 49. Hey, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est 50, après 51, 52. Les 52 semaines de l'année seront bouclées. Et en 2016, vous pouvez définitivement vous abonner au Club Créé pour un an. Ça revient très économique. Par rapport à chaque mois, c'est 25 $. Par mois, si vous prenez pour un an, ça revient à 12 $ par mois à peu près. 12,50 pour être précis. Et ça va très bien aller. On va être dans les solutions tout au cours de l'année 2016. Notre ami Alain, il est au courant, c'est bon. Hein?
Intéressant, vraiment.
Vraiment, oui, oui. Oh, et puis, c'est pas pour que je le paye, là. Il n'est pas payé. Hein. Il vient ici bénévolement. C'est un plaisir d'échanger ensemble. Et comme nous disait Alain Bouchard tantôt, quand je lui ai lancé la perche, je lui ai dit « Hey, vos rapports, vos le sondage qu'il a fait, ben, il m'a donné le PDF de tout son exposé. Et je vais le mettre disponible dans le Club Créé intégralement. Donc, vous pourrez aller consulter le sondage qui a été fait il y a 30 ans et aujourd'hui. Il y avait beaucoup de questions. Alors là, on n'en a vu qu'un aspect très, très court. Là. Mm-hmm. Les étudiants, par rapport à Dieu et tout ça, mais on parle des extraterrestres. Je lui ai posé la question qui m'avait été commandée par notre ami Pierre-Charles Dubreuil. Est-ce que Alain Bouchard est allé rencontrer la mère de Claude Vorion d'Israël? Vous entendrez sa réponse. Qu'est-ce qu'il a appris de la part de sa mère à Claude Vorion en France? Alors, c'est ça. L'ésotérisme expérimental, on en voit de toutes les couleurs. Et le Vidéo Randia, ben, cette semaine, c'était consacré au thème du mois, l'aquarium. Et je sais que la semaine prochaine ou bientôt, là, j'ai quelqu'un qui va être un grand spécialiste dans un domaine qui n'est pas vraiment ésotérique, comme on pourrait dire, mais qui va vous passionner. Claude Latour. Pour parler de quoi? Star Wars, La Guerre des Étoiles. Vas-tu aller voir le film?
Ça s'en vient, au lieu du gros chance.
Ben oui, puis figure-toi que Claude Latour, qui est un mordu de La Guerre des Étoiles, la sortie de l'épisode numéro 7, c'est le jour de son anniversaire. Ah, hey, parfait, quel beau cadeau, hein?
C'est parfait.
Ça. Puis il va y aller avec ses deux garçons, comme moi je vais y aller avec mes deux garçons. C'est un must. Là. C'est la nouvelle religion, l'école Jedi,
non,
il faut aller voir.
Non, c'est pas la nouvelle religion, c'est le nouveau mythe.
Ah, OK. Donc,
soyons précis.
Hey, c'est bon. Oui,
pas
oui.
Une religion, mais c'est un mythe. C'est véritablement un mythe déployé, exactement comme dans l'Antiquité, on faisait des théâtres sacrés, ou comme il y avait des comic books aussi.
Ouais.
Chaque période a sa façon de raconter ses mythes.
Ah, oui, c'est bon.
C'est
hein?
un grand mythe.
Ah, c'est un grand mythe. Moi, en tout cas, je reviens à l'école Jedi et je vais en parler beaucoup parce que Maglav, la Fondation Kesh, a mis le doigt sur ce qu'on appelle la force. Tu sais, là, la force, là. Dans Star Wars, il ne l'explique pas vraiment, vraiment. Même, je dirais, Kesh lui-même, qui est vieux, qui est radote, qui ne parle pas vite, puis qu'on ne comprend pas très bien ce qui va arriver. Il y a des plans qui vont être disponibles sur Internet pour fabriquer des machines, des mécanismes à over unity, qu'on appelle. Alors, qui vont produire, à un moment donné, tu l'engages, tu le lances, c'est un coup qui est lancé.
Plus d'énergie que tu en mets dans le système.
C'est ça. Au début, ça en prend pour lui donner un élan. Puis à un moment donné que l'élan est pris, là, ta génératrice d'électricité pour ta maison, elle va t'en donner beaucoup plus
que ça en a. Dans le système.
Oui. Et donc, over, ça veut dire que tu peux en prendre puis alimenter ton chauffage, ton électricité.
Normalement, on devrait censurer ça, cette émission-là.
Ah ben, mon cher ami, on rentre là-dedans et je suis en contact avec des universitaires qui sont les deux pieds dans ça. Et il faut savoir que Kesh, Gilles va mettre des compléments dans le complément surprenant en rapport avec Kesh, là, c'est certain, ça fait partie des solutions numéro un, les moteurs à l'eau, moteurs à l'air, toutes sortes d'autres techniques, la Bloombox. Là, je donne des mots rapidement avec Gilles là, dans le complément surprenant de Gilles Surprenant, vous allez trouver tous les détails de ça. Il existe des solutions, au lieu de penser de réduire les gaz à effet de serre, il n'y en aura plus de gaz à effet de serre le jour où on va des automobiles électriques. Fait qu'au lieu de travailler sur les filtres, ça me fait penser aux aquariums. Au lieu de travailler sur les filtres, changeons la technologie. Les poissons, là, qui sortent de l'eau, qui développent un corps glorieux, un corps éthérique, comme on disait, et qui passent à le corps glorieux du Christ après sa résurrection, il n'y aura plus de mort, dont nous parlait notre ami de Marseille, et on sort de l'aquarium. Ben, nous autres, on vit en dehors d'un aquarium, mais il nous attend d'autres choses en dehors de notre aquarium aérien. Là. Et le Christ l'a prouvé avec son histoire, puis on parle de Milarepa en Inde, là, qui avait éclaté en lumière devant ses disciples. Il existe quelque chose au-delà. Dans Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Yoda, dans le dernier épisode, le sixième qu'on avait depuis longtemps. Là,
et Lucas lui-même a eu l'expérience de la force, c'est pour ça qu'il en parle.
Ben oui, il a été mis dans le coma pendant longtemps, il y a eu un accident d'automobile terrible, puis il en est sorti, puis il est revenu avec toute la série. Oui, c'est ça. Alors, il y a un lien avec tout ça. Alors, c'est ça promet.
Cette force, c'est la volonté.
Ah, la volonté. Il veut le dire, Alain. On va en parler, ça, c'est certain, des semaines prochaines. C'est-à-dire que la force, c'est la volonté. Que ta volonté soit faite en pensant à l'autre, mais que ta volonté soit faite en pensant à toi-même. Parce que la force est en toi aussi. Et on va se parler de tout ça parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi des trois doigts en électromagnétisme. Il existe un troisième doigt, là, l'électrique, le magnétique. Quand tu bouges l'électrique, ça produit un champ magnétique. Quand tu bouges le magnétique, ça produit un champ électrique. Alors, il y a d'autres choses. Il y a une troisième force dans notre réalité. On s'en parle un peu plus la semaine prochaine, à moins que j'aille Claude Latour. Lui, c'est un verbomoteur. Là. Quand il va partir sur Star Wars, la guerre des étoiles, on ne pourra plus l'arrêter. Là.
Il y a de la matière.
Et il y a déjà beaucoup de matière. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir Claude Latour avant la sortie de l'épisode numéro 7, le réveil de la force. Le réveil de la force. Le réveil de la volonté. Le réveil de... Qu'est-ce qu'il appelle ça? Le plasma. On va avoir à mettre des horloges à l'heure dans tout ça. Et c'est la nouvelle voie d'ésotérisme expérimental pour 2016. Ça m'a été donné depuis une semaine et demie à peu près. Je ne voyais pas venir ça. Je pensais que c'était fini. C'est fini la tradition ésotérique. On en a assez parlé. On va aller dans les archives, voir des bons invités que j'ai eus au cours des années des 40 ans. Mais pour 2016, c'est l'apothéose, c'est les solutions. La théorie et la pratique de ces solutions-là qui existent réellement. Alors, si COP21 ne bouge pas, nous autres, on va faire bouger des choses. Je sais que Bob, en France, va faire la même chose avec son émission BTLV. J'en parle parce qu'on a une forme d'alliance entre notre public, son public, mon public. Et puis, regarde, on a eu un appel de France aujourd'hui. Je suis sûr que notre ami de Marseille, il suit probablement Bob aussi. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci Alain d'avoir accepté notre rendez-vous.
Toujours un plaisir.
Et puis, on va se revoir. Écoute, je n'ai pas toujours des invités qui peuvent venir en studio. Et toi, tu demeures à quelques rues de chez moi. Puis, tu es extrêmement compétent dans tous ces domaines-là. C'était marqué dans le destin.
Un plaisir.
C'est ça, c'est beau. Merci. Merci bonsoir. Geneviève. Et on retourne dans notre aquarium. Mais on va être obligé de quitter l'aquarium si on veut avoir le générique à la fin. Alors, ça me prend la télécommande pour aller chercher le générique. Et je n'ai toujours pas trouvé la télécommande. C'est fou. Alors, mesdames, messieurs, je n'ai pas la télécommande. Cherchez avec moi dans le studio. On regarde
non,
un
non,
peu
non,
partout.
Non, on médite sur le poisson pendant ce temps-là.
Ah, les gens méditaient sur le poisson, oui, parce que c'est pas là. Hein, la télécommande n'est pas là, Geneviève, non?
Non, non,
non. Elle n'est pas sur l'autre. Elle est disparue. Ah, ben, elle doit être en dessous de ma serviette de plage. Alors, Alain, je t'ai passé un article. Je t'ai demandé de regarder l'article. Qu'est-ce que tu en penses de cet article-là? Ah, la télécommande est sous l'article. Okay, regardez bien ce qui était l'article que j'ai passé à Alain. As-tu eu le temps d'en prendre connaissance un petit peu?
Non, mais j'étais déjà au courant.
Ah oui? Alors, ça disait, en gros, dis-nous donc, parce que là, je ne peux pas le lire.
Le phénomène qui est répété. Par différents maîtres spirituels, que si certaines personnes méditent, s'il y a plus qu'un certain nombre critique de personnes qui méditent, ça hausserait le niveau de conscience global.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça parle de Trudeau, premier ministre du Canada. Alors, avec un yogi, Trudeau, mais là, on parle du père de celui qui est actuellement son fils, qui est encore un Trudeau, premier ministre du Canada. Et c'était la date de cet article-là du journal de la presse. C'était le 25 mars 1975. 22 mars 1975. Et là, je vous montre un petit passage. Ça, Gilles ne pourra jamais aller trouver ça dans les archives parce qu'il faudra avoir accès aux archives de la presse. Mais je ne sais pas si vous pouvez lire le texte, là. Oui, en reculant, mais il va se replacer, puis là, on va l'avoir. Oui, mais ça nous donne une idée, en tout cas, que plus ça change, plus c'est pareil. Et on voit que le père de comment il s'appelle, Justin, il était déjà très bien branché. Hein.
Faut-tu le mettre au complet?
Oui, c'est ça, il faut que je le mette au complet. Voilà! Alors, vous voyez, vous pourrez lire le texte en arrêtant l'image. Merci beaucoup de votre attention. Alors, j'ai retrouvé la manette pour aller passer de l'aquarium au générique final de notre rencontre d'aujourd'hui. C'était notre rendez-vous, comme à toutes les semaines, le samedi soir en direct de Mont-Saint-Hilaire au Québec, Canada. Et c'est donc accessible même aux gens de France de nous rejoindre par la ligne verte, on l'a vu aujourd'hui. Alors, c'était l'épisode numéro 49 de la semaine du 5 décembre 2015. L'animateur, concepteur, monteur de l'émission Ésotérisme expérimental et des vidéos Randia, mais je ne suis pas tout seul, comme vous le verrez. C'est Richard Glenn, notre invité de ce soir, Alain Niala, philosophe consultant, pour nous parler de l'aspect ésotérique de l'aquarium. Et on a eu le temps de regarder dans le club créé de la salle 15-12, celle du mois de décembre 2015, M. Alain Bouchard, sociologue des religions, à la place de Jean de Flore, qui est disponible, lui, dans cette rencontre très spéciale de graves réflexions sur l'état du monde, dans la salle 15-11 du club créé. Le complément surprenant qui va suivre ce vidéo Randia est disponible et la mise en ligne de la version audio par M. Jean-François Poulain à la régie Spirale. C'est une production ésotérisme-exp.com pour ésotérisme-expérimental.com sur le canal Orandia TV sur YouTube. On peut revoir les épisodes des vidéos Orandia de l'année passée, il y a 2 ans même. Pour revoir le congrès UFO 401-501, vous allez à l'adresse orandia.ca. Oui, maintenant, il y a du nouveau. On a lancé l'invitation et on doit prendre contact pour les conditions et pour s'ajuster sur le plan technique. Alors, c'est sur invitation pour nous recevoir, mon équipe, c'est-à-dire Gilles à la caméra, Geneviève à la régie et moi-même, pour faire des vidéos Randia ou surtout faire aussi des enregistrements genre conférences que je ne pouvais plus faire ici à Montréal à cause du moratoire au cégep de Maisonneuve. Vous pouvez soit me téléphoner au répondeur habituel au 450-467-5606 et on pourrait se rencontrer comme ça un samedi après-midi ou un dimanche après-midi ou même le dimanche soir si vous avez une connexion très rapide sur Internet. Ou alors vous pouvez m'écrire à l'adresse glennufo@videotron.ca. C'est peut-être même la meilleure manière de pouvoir entrer en contact en nous laissant votre numéro de téléphone, si possible. Donc, prenons rendez-vous et au plaisir de se rencontrer ou de se retrouver la semaine prochaine au prochain Vidéo Randia. À bientôt!